CQFD.
Nos gènes à l'honneur ce matin dans CQFD avec cette question, Antoine Drou. Choisit-on nos amis en fonction de leurs gènes?
Bienvenue, Adrien, dans le monde merveilleux de la génétique. Les gènes, c'est notre code source, un code composé de lettres qui se trouvent dans notre ADN. Ces lettres mises bout à bout font des mots, puis des phrases, puis des chapitres, puis des livres, pour finalement aboutir à une bibliothèque complète, à un plan complet du vivant. Nous avons de nombreux gènes en commun, vous et moi, Adrien. Nous sommes nés avec deux jambes, deux bras, deux yeux et un nez au milieu de la figure, entre autres. Mais nos codes génétiques ne sont évidemment pas complètement identiques, ce qui explique nos morphologies différentes, nos couleurs d'yeux différentes, nos tailles différentes, etc., etc., etc. Les fondations qui figurent sur le plan sont les mêmes, mais pas l'architecture précise de la maison. J'en arrive donc à la question du jour. Choisit-on nos amis en fonction de leurs gènes? Des chercheurs américains affirment que oui, les gens ont tendance à choisir des amis qui leur sont génétiquement proches, aussi proches que des cousins au quatrième degré. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont comparé des paires d'amis sans lien de parenté avec des paires de personnes étrangères l'une à l'autre. Ils affirment avoir trouvé bien plus de liens génétiques que prévu.
Alors on va s'arrêter quelques instants sur cette étude avec vous, Alicia Sanchez-Mazas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure au département de génétique et évolution de l'Université de Genève. Vous travaillez à l'unité d'anthropologie et vous n'êtes pas surprise par le résultat de cette étude. Pourquoi ?
Je ne suis pas surprise parce que on a forcément un partage de gènes avec les gens que l'on côtoie, tout simplement parce qu'on a une histoire commune. C'est l'histoire du peuplement qui va expliquer que nos origines sont partagées avec les gens qui sont géographiquement proches de nous.
Ouais, c'est vrai qu'on a deux parents, quatre grands-parents, 16 arrière-grands-parents, 32 arrière-arrière-grands-parents, puis 164, 128, 256, 512, ça va très très vite. Hein.
Oui, ça va très très vite et c'est d'ailleurs un petit peu un paradoxe parce que si vous remontez comme ça le nombre d'ancêtres de chacun de nous, on arrive très rapidement à un nombre astronomique d'individus alors qu'il n'y avait pas autant d'individus il y a N générations en arrière dans le pays dans lequel vous vivez. Le paradoxe, il est résolu par une solution simple, c'est que nous partageons tous de nombreux ancêtres.
Alors justement, cette étude, elle parle de cousins au quatrième degré. Alors c'est un peu trompeur parce qu'on se dit cousin au quatrième degré, c'est presque mon cousin germain. En fait, c'est pas si proche que ça, quatrième degré.
Au quatrième degré, ça fait 5 générations, donc ça fait 150 ans en arrière. Ça nous ramène en 1850. On peut très bien imaginer qu'on partage des ancêtres à ce moment-là.
Oui, vous dites aussi que le problème de cette étude, c'est qu'elle compare deux groupes qui sont difficilement comparables.
Oui, cette étude, elle pose un certain nombre de problèmes méthodologiques. Il y a une comparaison. C'est des variables qui sont très très difficiles à maîtriser. Il y a comparaison de deux groupes qui sont d'effectifs extrêmement différents. Dans un cas, on a considéré que chaque personne avait au minimum une relation amicale avec les autres. Dans l'autre cas, on a considéré tous les liens de non-relation en fait avec les autres membres du groupe. Donc, c'est assez difficile à maîtriser comme étude et les résultats ne sont pas si convaincants que ça et si significatifs que ça.
Mais alors, il y a quand même presque 2000 individus, si je ne me trompe pas. On a des ADN comme ça de tant de gens et on peut comparer les ADN de tellement de monde aujourd'hui ?
Oui, alors les auteurs de l'étude ont utilisé une grande banque de données qui avait été rassemblée déjà il y a pas mal d'années en arrière. Et cette banque de données, elle était destinée à étudier les risques cardiovasculaires d'un certain nombre d'individus. Et pour cela, ils avaient rassemblé des milliers de personnes. Ils ont suivi ce qu'on appelle des cohortes, donc sur pas mal d'années, voire même de générations, des individus. Ils les ont identifiés génétiquement avec un 500 000 de sites variables dispersés dans le génome, en vue d'étudier justement les risques génétiques de maladies cardiovasculaires.
Donc si l'on vous suit bien, c'est juste normal d'avoir des semblables génétiques dans notre cercle social. D'ailleurs, sans doute, Alicia Sanchez-Mazas, sommes-nous cousins à un degré ou à un autre, sans le savoir ?
Nous sommes tous cousins. Vous êtes mon cousin. Reste à déterminer à quelle génération nous partageons nos ancêtres.
Alors Alicia Sanchez-Mazas, vous travaillez sur la génétique des populations humaines, vous établissez une carte génétique du monde entier dans un but similaire à cette recherche ?
Oui, alors, enfin, dans un but similaire, non, je dirais pas dans un but similaire. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de reconstituer l'histoire du peuplement humain depuis nos origines. Et pour cela, nous étudions dans notre équipe, je ne suis pas seule à diriger des recherches dans l'équipe, il y a aussi Estelle Lapolony, Mathias Cura, et cet ensemble de chercheurs s'intéresse à plusieurs séries de gènes dans le génome, de manière à identifier, bien caractériser la variabilité génétique de toutes les populations humaines actuelles, à partir des données dont on dispose, et puis d'essayer de tester des scénarios de peuplement pour raconter, par exemple, l'histoire du peuplement de l'Europe, l'histoire du peuplement de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique.
Mais c'est pas plutôt l'archéologie, la paléontologie, la linguistique qui sont chargées d'étudier justement cette histoire des peuples d'humains ?
Aussi, bien sûr, mais ce sont des disciplines indépendantes, c'est ça qui est intéressant, c'est que la génétique va proposer un certain nombre d'hypothèses, et ensuite on peut croiser ces hypothèses avec des hypothèses proposées par les linguistes qui s'intéressent à l'origine des langues, par les archéologues ou les paléontologues qui vont trouver des vestiges directement dans des sites archéologiques, que ce soit des vestiges culturels, que ce soit des vestiges fossiles. Et c'est là que l'on va essayer de recouper nos hypothèses.
Ça fait des années que vous étudiez ce champ scientifique à l'Université de Genève. L'un des résultats les plus frappants, me disiez-vous, c'est que la distance génétique correspond à la distance géographique. Ça paraît assez logique, c'est un peu enfoncer une porte ouverte de dire ça, non ?
C'est assez intuitif, mais quand vous retracez l'histoire de l'anthropologie, vous apercevez qu'on a eu tendance à considérer des individus ou des populations qui étaient phénotypiquement très différentes, par exemple qui avaient une couleur de peau différente ou un faciès différent ou une stature différente, comme très très différents de nous, comme ayant une histoire très très éloignée. Or en fait, si vous mesurez génétiquement les ressemblances entre des populations, même phénotypiquement très dissemblables, vous apercevez qu'elles peuvent être très proches de nous génétiquement. On est plus proche de populations, ici en Europe, de populations qui habitent en Afrique de l'Ouest et qui sont phénotypiquement très distinctes de populations qui habitent en Asie orientale et qui sont aussi claires de peau que nous le sommes.
Plus récemment, vous vous êtes aussi penché sur l'influence de la géographie sur la génétique. Alors comment les déserts, les montagnes influencent nos gènes, pour quels résultats ?
Alors, dans l'histoire du peuplement, les individus, les populations ont migré, elles se sont déplacées, mais évidemment, elles se sont déplacées à des vitesses différentes selon les environnements. Il y a des environnements qui sont très arides, par exemple, on traverse pas un désert aussi rapidement que on traverse une savane. C'est ce qui fait que on repère maintenant dans la structure génétique de toutes les populations actuelles, on arrive à repérer ces barrières géographiques comme ayant constitué des barrières aux échanges, aux migrations entre populations. C'est par exemple le Sahara. De part et d'autre du Sahara, les populations sont relativement distinctes génétiquement. De part et d'autre des Alpes, on remarque aussi des différences génétiques entre les populations.
A fortiori l'Himalaya, j'imagine ?
Bien sûr. De part et d'autre de l'Himalaya, on pense que les populations, quand elles ont peuplé l'Asie orientale à partir de l'Asie occidentale, elles ont contourné l'Himalaya. Il y a des populations qui sont parties vers le nord, d'autres populations qui sont parties vers le sud, et au cours de leur migration, elles se sont différenciées.
Tout à l'heure, vous parliez de cette comparaison, ces différentes approches scientifiques qu'il y a pour retracer ce peuplement. En fait, on a l'impression quand même, avec cette nouvelle discipline, cette nouvelle disposition qu'on a d'accéder au code ADN, on arrive quand même à quelque chose de plus véridique. On est à peu près certain de ce qu'on a là, non ? Quand on a des ADN qui sont proches, on se dit ça s'est passé comme ça.
Alors, mais c'est très très difficile de retracer l'origine d'un individu donné, parce que c'est un patchwork si généalogique. Vous pouvez avoir des portions de votre génome qui vont descendre de tel ancêtre il y a un certain nombre de générations précédentes, et puis vous avez une autre portion de votre génome qui va descendre d'un autre ancêtre à une période différente. Donc pour reconstituer tout ce puzzle, c'est extrêmement difficile.
Un travail de fou, à chaque individu en fait.
Oui.
Merci en tout cas Alicia Sanchez-Madaz, je rappelle que vous êtes ma cousine, et vous êtes aussi accessoirement professeur au département de génétique et évolution de l'Université de Genève, unité d'anthropologie, invitée ce matin par Antoine Drou.
Merci beaucoup.
CQFD sur la première.